VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. Au Nigeria, les premiers résultats des présidentielles et législatives sont attendus aujourd'hui. Pour gagner la présidence dès le premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des voix à l'échelle nationale et au moins 25% des suffrages dans deux tiers des 36 États du pays, plus la capitale Abuja. Dans l'ensemble, le scrutin s'est plutôt bien passé, déclare le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos, joint par Timothée Donangmai.
Le problème normalement serait après l'annonce des résultats. Les résultats ne favorisent pas l'opinion publique, c'est là le problème. Mais si ça favorise l'opinion publique telle qu'on l'avait prévu, il y aura moins d'incidents.
Boko Haram s'était juré de perturber ces élections. Il y a eu quelques incidents. Quel a été l'impact sur le scrutin?
Il n'y a pas d'effet sur le déroulement des élections, bien généralement. Ce sont des craintes et des soucis, mais on s'est bien lancé dedans et on a vu que c'était des craintes qui n'étaient pas aussi bien fondées.
On a vu que dans l'état de Rivers, qui est un peu dans le fief du président Goodluck Jonathan, il y a eu des incidents avec des militants de l'opposition qui parlent de fraude électorale et d'intimidation. Quelle est la portée de cette situation dans l'état de Rivers?
Le gouverneur de l'état et le président ne s'entendent pas. Ils étaient dans le même parti. Alors, le gouvernement n'est pas un favori du gouvernement fédéral et les deux se soupçonnent. Et voilà que la feuille électorale où on devait reporter le résultat n'était pas disponible. Et voilà la soupçon qui a aggravé déjà les inquiétudes du gouverneur de l'État qui a été victime de beaucoup de menaces vis-à-vis son attitude qui est du côté de l'opposition. C'est bien fondé parce qu'il soupçonnait tout et il a su aussi mobiliser son peuple. Qui, contrairement à ce que disait le parti au pouvoir, son peuple le soutient beaucoup. La comité qui s'occupe des élections a annoncé qu'ils étaient en train de vérifier et voir le bien fondé des choses. Bon, on sait bien que les élections peut-être seront reportées, ils vont reprendre les élections après avoir annoncé les résultats dans les États où il y avait moins d'incidents.
Le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos. Au Burkina Faso, réunion aujourd'hui à Ouagadougou du groupe de contact international qui œuvre pour la stabilisation du pays. Par ailleurs, les états généraux de la justice organisés par le gouvernement de transition ont abouti à la signature d'un pacte national de renouveau de la justice dans le pays. Le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
8 chapitres subdivisés en 114 articles. C'est sous ce format que se présente le pacte national pour le renouveau de la justice au Burkina. Suivant l'appréciation qu'en fait Joséphine Ouédraogo, la ministre burkinabé de la Justice.
La réalisation des engagements que nous avons pris ensemble aujourd'hui repose essentiellement sur l'éveil des consciences des acteurs du monde judiciaire et leur pleine adhésion aux principes d'intégrité, de droiture, d'indépendance et de respect du justiciable, quelle que soit sa condition sociale.
Le président du Faso, pour sa part, insiste sur le volet accessibilité de la justice. On écoute le président Michel Kafando.
Le pacte aussi s'est présenté sur l'accessibilité du justiciable. Il ne s'agit pas simplement de recadrer les fonctions, le rôle et le comportement du juge. Il faut aussi permettre aux justiciables, ceux-là qui demandent qu'on leur fasse justice, il faut leur permettre de pouvoir accéder à la justice. Et le pacte a redéfini un certain nombre de modalités à partir desquelles cette accessibilité-là pourra désormais véritablement fonctionner de façon à ce que tout le monde ait droit à la justice. Je pense qu'au total, nous sommes arrivés à avoir un outil qui va nous aider beaucoup.
Le pacte va-t-il casser l'image négative qu'ont les Burkinabés de leur justice? Thérèse Traoré, la présidente de la Cour de cassation, répond.
Nous espérons profondément que l'ancienne image qui collait à la justice va être dépassée. L'immense majorité des magistrats travaillent dans des conditions très difficiles et nous pensons que les moyens seront mis en œuvre pour que les magistrats puissent travailler dans de meilleures conditions, puissent rédiger les nombreux dossiers qui sont en souffrance parce que tant que ces dossiers ne sont pas rédigés, ça ne peut pas aller à la Cour d'appel. Et au niveau de la Cour d'appel, tant que les jugements ne sont pas rédigés également, s'il y a des pourvois en cassation, la Cour de cassation ne peut qu'attendre. Et la lenteur de la justice est justifiée par ce fait-là. Et par le fait aussi qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats au Burkina Faso.
Pour la mise en œuvre du pacte, il a été créé un mécanisme de veille, de suivi et d'interpellation appelé AMP, Autorité de mise en œuvre du pacte. Zoumana Ounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, les autorités ont organisé à Bamako un meeting d'explication du projet d'accord d'Alger. Rencontre parrainée par les partis politiques de la majorité présidentielle qui avait pour but de faire adhérer un maximum de Maliens au document paraphé par le gouvernement le 1er mars 2015 à Alger. Des précisions avec notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
Ils étaient ministres, députés, cadres de l'administration malienne, appartenant à 60 partis de la majorité présidentielle qui ont pris part au meeting de Bamako sur l'accord d'Alger. Professeur Tchamoko Sangaré, président du parti ADEMA, et Zoumana Tchidoumbia, député à l'Assemblée nationale.
Ceux qui ont négocié cet accord, qui l'ont paraphé, ils sont aussi patriotes que ceux qui critiquent de bonne foi, sans savoir ce qui est dans l'accord.
L'accord est bon parce qu'il instruit la promotion d'un développement équilibré de l'ensemble des régions du Mali en tenant compte de leurs spécificités. Cet accord est bon parce qu'il permet d'engager une lutte sans merci contre le terrorisme, le trafic de drogue et les autres formes de criminalité transfrontalière organisée.
Les jeunes et les femmes ne sont pas restés en marge du grand meeting de la majorité présidentielle.
Les femmes de la CMP s'engagent à soutenir ce processus jusqu'à son aboutissement final.
Un Mali meilleur, un Mali en paix, où toutes ces filles et tous ses fils vivront dans la quiétude impossible avec cet accord issu du processus d'Alger.
La jeunesse de Kidal réclame la décentralisation. Pas de fédéralisme, pas de statut particulier, ni pour le Nord, ni pour le Sud, car nous estimons que les Maliens de Kaï et de Kidal sont égaux, ont le même droit.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'actualité hors d'Afrique maintenant, les négociations sur le nucléaire iranien continuent à Lausanne en Suisse. Toujours pas de consensus sur les paramètres d'un accord cadre à conclure avant mardi soir à minuit. Timothée Donagmaï.
Téhéran et les puissances mondiales continuent de mettre des propositions sur la table, mais n'arrivent pas à trouver la bonne combinaison pour un compromis, a indiqué un responsable américain ayant requis l'anonymat. Pour les États-Unis et leurs partenaires, il s'agit d'obtenir de Téhéran des garanties vérifiables que l'Iran utilisera son programme nucléaire à des fins exclusivement pacifiques. Pour l'Iran, l'objectif principal est d'obtenir l'allègement et, à terme, l'élimination des sanctions économiques dont il fait l'objet.
The only path forward is one step at a time.
La seule voie vers l'avant est de franchir une étape à la fois. Et s'ils peuvent s'entendre sur une formule mutuellement acceptable, les défis qui resteraient seraient moins importants que s'ils devaient retourner dans leurs capitales respectives sans aucun résultat concret, explique Ali Vaez d'International Crisis Group.
À noter que la version finale de l'accord est censée être prête à la fin juin au plus tard. En France, la droite dirigée par l'ex-président Nicolas Sarkozy a infligé une cuisante défaite aux socialistes du président François Hollande au second tour des élections départementales d'hier. Pourquoi ce grave revers? Timothée Donormay a interrogé Charles Kabeya-Moissé, professeur de sciences politiques à l'Université de Lyon.
Il y a au moins deux causes fondamentales. C'est que la gauche elle-même, elle est divisée. À l'intérieur même du PS, il y a beaucoup de divisions. Une deuxième raison, c'est le manque, je dirais, de perspectives du gouvernement, et notamment du président Hollande. Tout ce qu'il avait promis et ce sur quoi il avait été élu, il n'arrive pas à le faire, il n'arrive pas à réaliser son programme. Et ça a suscité beaucoup de départs de gens du Parti socialiste, d'une façon générale de la gauche.
Et que faut-il lire dans ces résultats à 2 ans de la présidentielle de 2017?
Je crois que les pronostics pour 2 ans sont un peu compliqués, dans le sens où je pense qu'un retournement est possible d'ici 2 ans.
Le Front National a également obtenu de bons résultats dans ses départementales.
Là, c'est un travail de longue haleine. Hein. Tous les dessus, je dirais, des partis classiques se retrouvent au FN. Pour moi, ce n'est pas vraiment qu'un vote de contestation. Ça devient aussi un vote de conviction. De plus en plus, les Français n'ont pas honte de se dire militants FN, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans.
Charles Kabeya-Moissé, professeur de sciences politiques à l'Université de Lyon en France. Et pour terminer, au Yémen, l'aviation de la coalition menée par l'Arabie Saoudite continue sa campagne aérienne contre les rebelles chiites, outils soutenus par l'Iran. Objectif, les obliger à déposer les armes. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info.